Bonjour, c'est Vincent Segal dans Pop, Pop, Pop.
Bonjour, c'est Cyril Latev dans Pop, Pop, Pop.
Pop, Pop, Pop.
C'est parti! Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. La vie est facétieuse parfois. Figurez-vous que ce matin, alors que je préparais cette émission, plongée, si je puis dire, dans la vie foisonnante et luxuriante de notre invité, le bien nommé Riyad Satouf, quelle ne fut ma surprise de tomber sur une dépêche expliquant que Ben Harper, le lointain cousin du critique cinéma Aoupette Énervé, que Ben Harper, disais-je, cherche activement à retrouver le vendeur de falafel qu'il a croisé à Rennes en 93 et qui, à l'en croire, a changé sa façon de voir le monde. Alors déjà, l'info en soi est inhabituelle. Pourquoi avoir attendu 25 ans pour rendre publique cette information? Seul Ben le sait. En revanche, ce qui est certain, c'est que tout comme il reste des poulets élevés au grain, Riyad, lui, a été nourri au falafel, sans doute un des plats les plus populaires au Proche-Orient où il a grandi. On se souviendra aussi que le jeune Riyad venait d'arriver en Bretagne en provenance de la Syrie et qu'il était déjà très mélomane, même si ses goûts le portaient plus vers le métal que vers le subtil mix de blues, de gospel, de funk et de soul de Bernard Peur. Et comme Riyad a entre-temps changé la façon de voir le monde de beaucoup d'entre nous, je me disais que même si officiellement il n'a jamais vendu de falafel, ce concours de circonstances tenait littéralement du miracle. Et comme nous avons Riyad sous la main, nous allons commencer cette émission en lui demandant tout simplement. Allez, c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Riyad Satouf, avez-vous vendu des falafels à Ben Harper en 1993? Répondez, les Français veulent savoir.
Eh bien, figurez-vous que je me rappelle exactement du concert de Ben Harper à Rennes en 93 où il était là. À cette époque-là, c'était une sorte d'idole extraordinaire pour Minette parce qu'il était beau, il jouait sa guitare sur ses genoux, etc. Et je pense qu'il devait prendre beaucoup de drogue. Et qu'en effet, à Rennes, il a dû vivre une expérience... Mais c'est pas moi qui lui en ai vendu. Mais alors, ceci étant, il y avait très peu de vendeurs de falafel à Rennes. Donc je pense qu'il peut le retrouver assez facilement.
Donc vous n'étiez pas une Minette et vous ne lui avez pas refourgué de falafel?
Absolument pas. D'ailleurs, j'ai jamais été très fan de Ben Harper, personnellement. Ça m'a fait beaucoup rire cette histoire de falafel. Je pense qu'il a eu un petit retour de...
Vous avez été, vous avez été fan de falafel en revanche?
Ah, j'adore les falafels, bien sûr, c'est magnifique.
Oui. Faut que ce soit bien cuisiné. Hein.
Oui, c'est sinon, ça peut être très très mauvais.
Étouffe chrétien. Bien, à mes côtés, celle qui est ravie qu'on parle enfin de sa touffe, Charline Roux. Bonjour Charline.
Ah, je me suis encore trompée de studio et d'adresse, c'est les grosses têtes. Oh bah, quelle histoire! Bonjour Riyad.
Riyad Satouf, vous le savez car vous êtes déjà venu dans Pop Pop Pop, c'était il y a un an. On ne peut pas commencer l'interview sans répondre à une question. Et cette question c'est... Pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors pour être totalement honnête Riyad, j'ai eu des réponses étonnantes, stupéfiantes, saugrenues, rigolotes, indéchiffrables. Parmi mes préférés, il y a la vôtre. Ah oui, voilà ce que vous aviez répondu après une longue hésitation.
C'est moi.
Bon, ça va, vous avez dégonflé depuis... Non, en réalité, vous aviez approfondi cette définition.
C'est quelque chose de culturel qu'on pourrait transmettre avec n'importe qui, que ce soit ses parents, ses enfants, et en même temps les choquer un petit peu, ou les bousculer dans leur certitude.
Voilà, et pour vous aujourd'hui, Riyad Satouf, lundi 12 novembre, c'est quoi la pop culture?
Alors c'est assez marrant parce que je reviens de l'endroit où il y a l'exposition à la BPI du Centre Pompidou et il y avait diffusé comme image dans le centre de cette exposition des photos, des images de John Rambo, Stallone nu derrière un arbre. Et je dirais moi, que la pop culture pour moi c'est quand même les corps nus des hommes musclés des années 80-90, Stallone, Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme. Voilà, ils sont tellement beaux à regarder. Là, je les revoyais. Là, c'est.
Charline, vous validez?
Complètement.
C'est tout.
Autre question? Ah oui.
Bien.
Je me plaisantais sur les corps nus des hommes des années 80.
Bien, oui, je vous parlais. Riyad Satouf, on continue à parler de pop, de culture et de pop culture dans l'émission, juste après le tout nouveau morceau de Williams et Vilain, qui s'appelle paradoxalement Something Beautiful.
Make me wanna stumble on pillows. something beautiful. Something beautiful. Something beautiful. You make me wanna drink from the deepest well, build towers of steel.
You make me wanna
cut down a million trees, burn fiery wheels.
You make me wanna
block out the moonlight and turn off the sun. You make me wanna fire off my cannonballs, make the natives run. You make me wanna break something
Something Beautiful, c'est le tout nouveau morceau de William, qui ne l'est pas lui, puisqu'il s'appelle Zévilin. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec la touffe la plus célèbre de la pop culture, avec celle de Marge Simpson bien sûr. Mais qui est-il? Réponse avec son pop portrait. Ah, attends, votre portrait bien sûr, Riyad, c'est... Bah, c'est un portrait, mais...
À base de pop.
Et c'est signé Charline Rom.
Entendre de nouveaux trucs. Allez, allons-y. Aujourd'hui, nous recevons un homme qui se rêvait en Tom Cruise, mais qui, à mon sens, a fait mieux, bien mieux que celui qui le faisait fantasmer. Parce que question Mission Impossible, notre invité n'a rien à envier à l'interprète d'Ethan Hunt. Riyad Sattouf a réussi à dompter et appréhender la plus féroce des armées, constituée des plus actifs et cruels des ennemis, elle est jeune. Oui, celui qu'il a été, celle de Petit Verglas et Beau Gosse, Esther et évidemment dans La Vie Secrète des Jeunes. Et qu'est-ce que je sache, Tom Cruise n'est jamais passé derrière la caméra, à part pour un épisode d'une série en 94, alors que Riyad, lui, s'est acquitté de cette tâche à de multiples et brillantes reprises, Les Beaux Gosses, l'excellent J'aime à le répéter, Jackie au Royaume des Filles et l'adaptation en animé des Cahiers d'Esther. Riyad Sattouf interroge mieux que Tom Cruise le mythe de la virilité dans Pascal Brutal, qui est quand même autre chose que Jack Reacher. Tom Cruise, dans Valkyrie, certes, fomente un complot contre le Führer, mais Riyad, lui, sans plan ni stratégie, a bouté Eric Z des meilleures ventes des librairies. En prime, je suis sûre que Riyad se défend sur les cocktails, et Tom Cruise, à ce que je sache aussi, n'a pas révélé Vincent Lacoste, ce qui lui donne quand même un petit peu de retard. Autant de raisons qui justifient son entrée et son expo à la BPI du Centre Pompidou. Normal quand on sait que c'est presque le premier portrait que Riyad Sattouf a dessiné.
C'est vrai ça que c'est le premier portrait que vous avez dessiné, ouais. Pompidou.
Oui, c'est ce que je raconte dans le premier volume de L'Arabe du Futur. C'est un de mes premiers dessins, c'est la tête de Pompidou, tout à fait.
Donc la boucle est bouclée.
La boucle est bouclée,
plus ou moins Pompidou.
Plus ou moins Pompidou de profil. C'est surtout les sourcils qui étaient réussis.
Et vous vous rêviez vraiment au Tom Cruise? Ou c'est Charline qui exagère?
Non, c'est simplement qu'à un moment, j'avais les cheveux un peu longs. Et c'était ma mère qui me coupait les cheveux. Et un jour, j'en ai eu marre qu'elle me coupe les cheveux. J'ai demandé à aller chez le coiffeur. Et j'ai voulu la coiffure de Tom Cruise, mais j'avais pas les cheveux de Tom Cruise, donc un sympathique coiffeur breton m'a fait une sorte de banane qui tombait un peu sur l'avant.
Et Tom Cruise, quelle période?
Bah, Tom Cruise, période cocktail, justement.
Capillairement,
c'est là où
ouais.
il était vraiment je trouve, le plus beau, bronzé, avec des dents encore un peu de travers.
Nu derrière des arbres, c'est ça, dans les 80, ouais. Ok. Riyad Satouf, je baisse la lumière pour me glisser dans votre intérieur. Enfin, chez vous, quoi. Pour savoir ce que vous lisez, écoutez ou regardez, c'est l'heure de votre pop-list. Nous vous avons demandé à nouveau de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Et pour le livre culte, vous avez choisi Mes vols de Jean Mermoz. Mes vols, c'est une compilation des écrits et des discours du pilote de l'aérospatial Jean Mermoz. Il est publié après sa mort par ses amis chez l'éditeur Flammarion en 1937. Charline, puisque je suis le steward, vous êtes l'hôtesse, où en sommes-nous avec ce vol par exemple?
L'embarquement est à présent terminé, nous allons bientôt décoller. Le temps de vol est estimé à 1 heure. Le capitaine Deconne et moi-même sommes ravis de vous accueillir sur ce vol pop-pop-pop à destination de nulle part. Turbulence garantie, les issues de secours sont situées à l'avant, à l'arrière et sur les côtés de l'appareil PNC à vos portes.
Ah ben, ça nous donne des infos sur le livre, ça.
Vous les avez données?
Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, Riyad, nous en lire un extrait?
Mais bien sûr, alors il faut savoir que Jean Mermoz, quand même, c'était un pilote de l'aéropostale et non pas l'aérospatiale,
oui,
comme vous avez dit.
Oui, autant pour moi.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un pilote de légende qui, si aujourd'hui, on peut faire la blague que vous avez fait avec les hôtesses, et c'est grâce à lui, parce que c'est lui qui a été un des premiers pilotes de ligne. Si vous voulez savoir une chose, pourquoi les pilotes d'Air France ont la cravate noire? C'est pour porter le deuil de Mermoz qui est mort dans l'Atlantique Sud. Quand j'étais
encore aujourd'hui.
Et quand j'étais enfant, j'ai lu son livre, Mes vols, qui est un recueil de textes pas très bien écrit. Je me souviens, il était meilleur pilote qu'écrivain, mais que j'aime beaucoup, où il raconte vraiment les conditions incroyables dans lesquelles il volait. Et là, par exemple, c'est un extrait où ils sont dans une cabine qui ressemble grosso modo à une 4L, sans instrument, en pleine nuit, dans une tempête au milieu de l'Atlantique. Il ne voit rien, à part le fait qu'il sait qu'il est à peu près droit.
Ouais.
Et donc, il raconte, et je vous le fais.
Allez-y.
Au milieu de ce cyclone, qui est une sorte de tornade sans vent, il faisait une chaleur étouffante. Je dus me débarrasser de quelques-uns de mes vêtements pour ne conserver que mon pantalon et ma chemise. Quand Dabry m'apporta le cap à suivre, je constatai que lui aussi était en tenue légère. Il me cria dans l'oreille « Quelle chaleur !» Nous n'avons pu éviter des grains d'une violence inouïe, qui dégageait une chaleur plus forte encore que celle des bains de vapeur. Tout à coup, sans que nous ayons pu nous méfier, notre cabine de l'avant à l'arrière baigna dans l'eau. Nous étions inondés.
Ah, je sens le comédien quand même derrière le lecteur.
Non, mais quand
là.
On lit ça, on se dit que c'est grâce à lui si on est tranquille dans un avion maintenant.
Oui, quand même. Non, mais moi je parlais de votre interprétation.
La voix d'époque.
Ah oui, non, j'adore Jean Mermoz. En plus, il paraît dans les livres de Kessel, quand Kessel le fait parler, Jean Mermoz, il a un tic de langage qui est, il dit vieux tout le temps. Salut vieux, tu vas bien? Puis là, ça te dit de venir vieux. Et j'adore, je trouve qu'il faudrait le remettre à la mode, ce tic de langage.
Bah, c'est fait. Vous venez de le faire. Bravo.
Ok,
Riyad.
Vieux, continuons l'émission. Vieux.
Alors, Riyad Satouf, continuons votre pop-list avec votre film culte. Et alors là, c'est un film qui fait son entrée dans la pop-list. Donc, jingle.
Ouah, putain, truc de
Eh oui, truc de ouf, parce que vous avez choisi Robocop, réalisé par Paul Verhoeven en 87 avec Peter Weller, et vous précisez en VF. Charline, résumez-nous en VF, bien sûr, cette histoire de flic bionique.
C'est presque l'an 2000, et Détroit est la ville la plus dangereuse et la plus corrompue. Pour y remédier, les services de police inventent une nouvelle arme, Robocop, mi-homme, mi-robot. Mais attention, ce cyborg a aussi une âme.
Comme vous le savez, nous avons passé un contrat avec la ville pour gérer la répression criminelle. Mais les chercheurs de ce service sont persuadés qu'une force de police efficace n'est qu'une partie de la solution. Il nous faut quelque chose de plus. Il nous faut un policier qui fonctionne 24 heures sur 24. Un policier qui n'a besoin ni de manger, ni de dormir. Doté d'une grande puissance de feu et des réflexes adéquats. Mes chers collègues, j'ai la joie immense de vous présenter Robocop.
Alors, Robocop en VF, hein, bien entendu, Robocop années 80, Robocop nu peut-être derrière un arbre?
Non, Robocop c'est un immense chef-d'œuvre, c'est un de mes films préférés, notamment en VF, c'est vrai que parce que non seulement c'est un film extraordinaire qui prévoyait le monde dans lequel on est aujourd'hui de manière incroyablement lucide, et en plus la VF fait que c'est quasiment une comédie. Parce que il y a toutes ces voix des années 80 qu'on adorait, qui nous ont marqué, tous ces doubleurs. Et je le regarde sans cesse, c'est tout le temps en VF. J'aime beaucoup.
Puisque vous êtes aussi comédien, Riyad, pourriez-nous faire une petite citation?
Oui, une petite Robocop. Citation de Robocop. C'est le moment dans le conseil d'administration au début. Il y a un type qui prend la place de Jones et qui décide de développer le projet de Robocop. Justement, je crois qu'il dit, il y a son pote qui lui dit « Méfie-toi de Jones. C'est un requin. J'emmerde de Jones. Mon projet est meilleur que le sien et je le prouverai au grand patron. Dommage pour qui naît. » La loi de la jungle. Parce qu'en fait, il y en a un type qui s'est fait flinguer devant le conseil d'administration. Enfin, faut regarder le film, c'est un chef-d'œuvre, je vous conseille.
Robocop, Paul Verhoeven, 87. Bien. Riyad Satouf, passons à votre série culte. Et cette série, c'est V. Série créée par Kenneth Johnson. Et vous précisez, première version, en 1983. Et pour vous, la musique signée Joe Harnell est absolument géniale. Je vous sens tout ému là.
Non, c'est magnifique. J'ai encore des frissons.
C'est la musique qui vous bouleverse tant,
oui,
la série, non,
cette série était géniale. C'était donc, ça raconte l'invasion de la Terre par une race extraterrestre. Ils arrivent en étant sympas au départ et en fait il s'avère qu'ils veulent utiliser les humains comme nourriture parce qu'ils n'ont plus à manger sur leur planète. Mm-hmm. Et je me rappelle du premier épisode.
Avoir faim, hein.
C'est ça. Le premier épisode, je me souviens, le photographe qui est le personnage principal, à un moment il se tourne et on voit une soucoupe volante qui arrive comme ça et c'est vraiment, ça glace le sang d'y repenser. Je me rappelle, ma grand-mère bretonne adorait cette série qui n'a pourtant rien à voir avec son histoire parce qu'en fait ça lui rappelait la Seconde Guerre mondiale, j'allais dire. L'invasion de deux types qui prétendent être vos amis, en fait, pas. Ouais. C'est vraiment un chef-d'œuvre.
Bien. J'ai une série.
J'ai très peur, moi.
Ça vous fait peur. Vous êtes tellement impressionnable, Charlie.
C'est ça.
Alors, j'ai un livre, j'ai un film, j'ai une série. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque une chanson, évidemment, une chanson. Et alors là, on parle de la chanson d'avant les contrôles d'allemand. Pour vous, cette chanson, c'est UB40, All I Want To Do. Charline, c'est à la passionnée de reggae que je m'adresse, là. Une ou deux infos sur cette chanson?
L'allemand et le reggae liés dans la même phrase, mais deux passions réunies. All I Want To Do, une chanson extraite de l'album Rats in the Kitchen, sorti en 86, le 7e album de ce groupe qui tient son nom du formulaire Pôle emploi britannique. All I want
sentez le contrôle d'allemand qui arrive là.
Ouais, parce qu'en fait, il y a un moment dans la chanson où il dit I wish I was an island in the sun. Où il dit j'aimerais être sur une île au soleil plutôt que de devoir faire des trucs. C'était ce que je ressentais avant les concours d'allemand, avant les contrôles d'allemand. C'est la chanson de l'adolescence. Ça, je pense qu'il y a beaucoup d'ados qui.
Ça vous a fait du bien?
Ouais, ça me déprime un petit peu. J'ai l'impression que je vais avoir un contrôle d'allemand dans pas longtemps.
Alors, on la coupe tout de suite. Je résume, Jean Mermoz, Robocop, V, UB40, je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture, et ça nous donne ça.
Comme vous le savez, nous avons passé un contrat avec la ville pour gérer la répression criminelle.
Au milieu de ce cyclone, il faisait une chaleur étouffante. Tout à coup, sans que nous ayons pu nous méfier, notre cabine de l'avant à l'arrière baigna dans l'eau.
J'ai la joie immense de vous présenter Robocop.
Voilà qui vous résume en ce 12 novembre.
Magnifique.
Oui.
Ouais, c'est.
Voilà
bien.
Mon Riyad Satouf, 12 novembre 2018. En quelques secondes, compacté. Bien, Riyad, avant de parler de votre exposition, écoutons un morceau qui, à mon sens, pourrait faire partie de votre pop list. Nirvana, Drain You.
Elle est bien aussi, celle-là.
Take your time, hurry up.
Nirvana, et les oreilles les moins expertes auront bien sûr reconnu le morceau comme As You Are et non pas Drain You, ainsi que je vous l'avais annoncé. En fait, tout ça, c'est la faute de Ghislain Fontana, notre réalisateur, qui s'agitait derrière la vitre du studio, comme dans... Vous avez vu le film Gorille dans la brume?
Oui.
Voilà, c'est exactement ça. Il faisait des grands signes pour qu'on coupe le morceau et qu'on remette la bonne version. Mais non, voilà, toutes nos excuses, mais enfin, il vient juste de rentrer de vacances. Nirvana, c'était dans Pop 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 sur France Inter. Ça aurait pu être dans votre poplist, Riyad, non?
Ah oui, bien sûr. Nirvana, d'ailleurs, qui a explosé, leur carrière a explosé à Rennes. Mm-hmm. On en parlait au début. Et 15 jours avant le suicide de Kurt Cobain, il est revenu faire un concert à Rennes parce qu'il estimait que c'était dans cette ville que tout avait commencé. Et j'étais à ce concert, tout à fait.
Enfin, magnifique. Il n'y a pas survécu, on peut aussi voir comme ça.
Bah oui, c'est ça. C'est ça qu'il était très déprimé déjà à l'époque. Ouais. Ça se voyait sur scène.
Riyad Satouf, c'est la consécration, vous êtes sur tous les fronts, édition avec le tome 4 de l'Arabe du Futur, toujours en tête des ventes, à la télé avec les Cahiers d'Esther, tous les soirs de la semaine à 20h50 sur Canal+, dans sa version animée, et maintenant exposé à la prestigieuse bibliothèque du Centre Beaubourg sous le titre Riyad Satouf, l'écriture dessinée. Alors on va s'intéresser plus particulièrement à cette expo qui démarre dans 2 jours, et ça tombe bien puisqu'elle aborde tous les aspects de votre travail de dessinateur. Moi je l'aurais intitulé « Les beaux gosses à Beaubourg ». Non.
Ouais, ça c'était une bonne. Pourquoi pas. Mais les beaux gosses, ouais.
Mais les beaux gosses à Beaubourg, parce que c'est très bien ce titre, l'écriture dessinée, mais c'est très sérieux.
Ouais, mais les beaux gosses à Beaubourg, c'est un peu bizarre.
C'est très San Antonio.
Voilà, les beaux gosses au musée ou.
Ok, bon alors d'accord, l'écriture dessinée. D'abord, ce mot, cette expression, l'écriture dessinée, qui a été préférée à celle plus attendue de bande dessinée, est-ce que ça vous définit mieux? Est-ce que c'est une œuvre dessinée qui s'est construite en s'écrivant?
Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de façons de faire des bandes dessinées. Ce titre, bon, ce sont les personnes du Centre Pompidou qui ont, mais que je trouve c'est un titre, c'est un nom intéressant aussi parce que la bande dessinée c'est vraiment une langue à part entière et c'est une écriture dessinée en fait. Il y a plein de façons de faire de la bande dessinée, mais la bande dessinée en tant que telle peut servir à écrire des choses. On peut écrire un scénario de film en bande dessinée par exemple. Et je sais que quand j'écris un scénario de bande dessinée, les dessins et les textes apparaissent en même temps. Les dessins sont des mots et les mots sont vraiment des dessins. Donc c'était pour mettre en avant ce lien intime qui existe entre les lettres, les dessins, le rythme des cases qui sont comme les rythmes des lettres. Enfin, voilà, il y a quelque chose de, c'est très lié.
Mais si on parle de ce principe de roman graphique, est-ce que vous êtes romancier autant que dessinateur?
Ouais, c'est vrai,
c'est exagéré.
C'est des concepts un petit peu. Moi, j'aime bien dire que je fais des bandes dessinées, que je raconte des histoires. Voilà, c'est vrai que. Il y a plein de sortes de bandes dessinées différentes. Après, le roman graphique peut être considéré comme une bande dessinée avec plus de pages, peut-être. Alors, les mangas japonais sont des romans graphiques aussi, parce qu'ils ont souvent des pages, une pagination très importante. C'est vrai que c'est une tentative de description d'objets, mais au final, c'est des histoires, des livres d'histoire, quoi.
Mais cette expression d'écriture dessinée, qui donne le titre à votre exposition à Beaubourg, en fait, c'est votre ami Émile Bravo.
Oui, bien sûr.
Le célèbre dessinateur qui l'a imaginé.
C'est lui qui m'en a parlé. En fait, quand j'ai commencé à faire des bandes dessinées, j'ai rencontré Émile Bravo, qui est un auteur génial, qui a d'ailleurs réalisé un chef-d'œuvre, Le Spirou. Un Spirou qui vient de sortir, que je vous invite vraiment à découvrir.
Alors c'est le tome 2 hein, qui vient de sortir.
C'est le tome 1. Il a fait un Spirou. Mais c'est le tome 1 d'une nouvelle série de Spirou qui
se passe avec Spirou juste au début de la Deuxième Guerre mondiale.
Et quand j'avais rencontré Émile, que je commençais, c'est mon maître en fait. Il m'a montré ces scénarios qui étaient dessinés et de cette façon-là. C'est-à-dire, il faisait de ces petits bonhommes avec des bulles, avec des petits croquis comme ça. Et après, il mettait ses feuilles dans une sorte de transparent, comme les trucs qu'on a à l'école, là, les classeurs transparents. Et au final, vous aviez une bande dessinée succincte dont on tournait les pages. On avait tout un livre avant qu'il ne soit fait, dont on pouvait changer la structure, on pouvait regarder. Et en fait, ça m'a complètement révélé, c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis à faire des livres, à dessiner. D'ailleurs, dans le cadre de l'exposition à Beaubourg, il va y avoir une rencontre avec Émile Bravo, justement pour lui rendre hommage dans l'importance majeure qu'il a eue.
Bon. Riyad Satouf, vous avez à peine 40 ans et déjà une rétro. Est-ce que ça donne un peu le vertige ou à défaut un petit coup de vieux?
Oui, sans doute. Disons que c'est très angoissant. Non, ce qui est angoissant, c'est que dans l'idée de l'exposition, c'est complètement opposé à l'action de faire un livre, par exemple, parce que je suis seul dans, à mon bureau en train de dessiner, et je me dis tout le temps que la page de bande dessinée que je suis en train de faire précède une page qui va arriver ou suit une page que j'ai déjà faite, et donc c'est un ensemble. Là, de le prendre les pages et de les accrocher au mur et qu'on regarde tous les défauts, etc., j'ai l'impression que chacun de mes dessins sont nus et qu'on peut les exosculpter. Il y a beaucoup de dessins que je n'ai jamais montrés, qui sont des recherches, des choses comme ça, et que j'ai l'impression que c'est une sorte de... Oui, c'est vertigineux quand même, c'est assez effrayant. Mais bon.
C'est la toute première exposition monographique consacrée à votre œuvre. Alors dites la vérité vraie, Riyad. Est-ce qu'à un moment, c'est pas non plus la consécration à laquelle tout artiste...
Ça, c'est vrai, c'est très... En fait, quand je l'ai visité tout à l'heure, cette exposition, je l'ai trouvée super impressionnante, etc. Parce que c'est impressionnant de voir ces dessins mis de la sorte. Mais j'avoue que je me suis dit, oh là là, il faut que je fasse la suite de l'Arabe du Futur, là, au lieu d'être là, regarder mes dessins, là, qu'est-ce que je fais là. Enfin, mon angoisse vient aussi de ça, l'histoire n'est pas terminée. Et c'est vrai que c'est toujours... Enfin, j'avoue que je ne suis pas habitué à faire des expositions. Ça me pose un gros questionnement.
Suite de l'Arabe du Futur sur laquelle vous travaillez, puisque le tome 5 est annoncé pour 2019.
Tout à fait, oui. Je suis dessus à fond. C'est vrai que dans cette exposition, il y a mes livres d'école que j'avais en Syrie avec les dessins que je faisais dedans. Il y a des photos de moi blond. Enfin, il y a un truc très intime que je n'avais pas forcément vu venir parce que je les ai laissés faire l'exposition un peu dans mon dos. En fait, ils ont fouillé dans mes dessins, etc. Et j'avoue qu'il y a un côté un peu... ça tourne la tête quand même.
Bon, enfin, consécration, c'est le mot qui convient. N'oublions pas que vous êtes aussi officiellement entré dans le Robert cette année. Vous savez ce qu'ils disent de vous dans le Robert ?
Allez-y.
Alors, auteur, réalisateur, dessinateur de BD franco-syrien né en 78, ses bandes dessinées, L'Arabe du Futur, Les Cahiers d'Esther, comme son premier film Les Beaux Gosses, s'inspire autant de ses souvenirs que des adolescents d'aujourd'hui.
Oh, c'est sympa.
C'est sympa, mais je trouve ça assez réducteur, en fait.
Oui, mais bon, c'est une définition de dictionnaire. Après, oui, c'est pas...
Oui.
Vous aurez... Oui, non, j'aime bien, moi, quand même, être dans le Robert. Si ma mamie voyait ça...
Attendez, évidemment, être dans le Robert. Non, mais c'est alors encore une consécration. En plus, qui dit Robert, dit les deux Robert, hein, le petit et le grand. Ah. Puis deux Robert, ça touffe, ça devient super excitant, non ?
Je laisse un petit moment.
Oui, allez-y, j'enchaîne.
L'exposition est, elle, articulée en trois parties. Observation du réel, art graphique de Riyad Satouf et autobiographie dessinée. Trois axes que vous avez décidé, et comment est-ce qu'on fait pour ordonner son œuvre au moment de l'exposer ?
Alors non, j'ai rien décidé, voilà. Hein, je vous assure, ça, je suis totalement innocent.
Vous êtes laissé faire.
Je me suis complètement laissé faire. Et ils sont venus me voir et ils ont fouillé dans mes dessins, ils ont choisi des dessins. Il y en a plein, j'étais là, non, on montre pas ça, c'est pas bien dessiné, surtout, je vous en supplie. Là, non, mais si, viens, on va le mettre là dans le... J'étais là, non. Alors bon, c'est très... Donc je les ai quand même laissé faire, ils m'ont mis des parties, etc. Donc moi, c'est vrai que des fois, je pense à mes lecteurs, parce que c'est vrai que depuis que j'ai fait l'Arabe du Futur, j'ai beaucoup de lecteurs, ils viennent me voir, ils adorent vraiment mes dessins. Je pense qu'ils seront contents de voir cette exposition, d'autant qu'en plus elle est gratuite, donc on peut y aller très facilement. Ils ont analysé, divisé ça en plusieurs parties. Moi, c'est vrai que ma façon de voir mes livres, c'est page 1, et après page 2, et après page 3, et l'angoisse d'avoir encore 150 pages à dessiner. Donc je réfléchis peu, en fait.
Vous pouvez revenir un instant sur cette relation avec vos lecteurs ? Il y a une grande fidélité de leur part.
Ben disons que depuis que je fais l'Arabe du Futur, en fait quand j'ai commencé à faire l'Arabe du Futur, je l'ai destiné à ma grand-mère bretonne qui détestait la bande dessinée. Je me suis dit, je voudrais que des gens qui ne lisent pas de bande dessinée ou qui détestent la BD ou qui ne savent pas par quel bout le prendre lisent mes livres. Donc j'ai essayé de faire une bande dessinée simple à lire, expressive avec beaucoup de texte et aussi longue à lire. Et donc c'est vrai que j'ai énormément de lecteurs. Je crois que j'ai réussi ce truc-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant que c'est les seuls BD qu'ils lisent. Donc j'ai des mamies, j'ai des papis, j'ai des familles, il y avait un gars l'autre jour, j'étais à une dédicace à Strasbourg. Je vois un type arriver en uniforme de DF. Puis il me dit, ouais, j'ai garé la camionnette là, j'étais à côté, j'ai que t'es en dédicace, j'adore, j'ai amené ma BD, mais faut pas me le faire, je peux passer dans tout le monde parce que ma camionnette est garée en double fil là. En fait, j'adore, c'est vraiment des gens que je ne voyais pas avant, en fait, j'ai l'impression de partager avec eux, voilà, l'histoire de ma famille, des choses que j'ai jamais pu vraiment partager avec quiconque. Donc
Vous avez dit oui, il est passé devant tout le monde.
Il est passé devant tout le monde, tout à fait.
Exactement. On parle d'observation du réel, hein, c'est une des catégories, un des axes de l'exposition. Et est-ce qu'on fait erreur si on trouve que la dimension sociologique du récit est assez indissociable de votre œuvre ? C'est-à-dire quand il y a distorsion, on a plus l'impression que c'est sur le physique des personnages que sur le récit en lui-même.
Bah, oh là là, là, c'est hyper intello comme question, là. C'est hyper
compliqué. Non, pas vraiment.
J'étais pas prêt à un truc aussi pointu.
Elle a beaucoup travaillé.
Non,
mais...
non, c'est vrai que, disons que je sais pas intellectualiser comme ça. Je raconte souvent des choses d'observation. Et j'essaie de retranscrire la façon dont je vois les choses. Alors, c'est vrai que je me suis rendu compte il y a quelques temps que j'adorais l'imitation, par exemple. J'adore imiter les gens que je croise ou les
On l'entend depuis tout à l'heure.
Je sais que c'est un. J'adore les imitateurs. Enfin, je suis complètement fasciné par cette.
Qui aimez-vous imiter?
En général, c'est pas forcément des gens connus, mais par exemple, le type à l'entrée de la BPI du Centre Pompidou quand je suis arrivé ce matin, il dit bonjour monsieur, oui c'est pourquoi. Alors, j'ai dit, excusez-moi, monsieur, vous avez un badge, quelque chose qui vous laisse, vous pouvez entrer là. Moi, je sais pas qui vous êtes là. En fait, j'aime bien la façon de parler, d'imiter les façons de parler des différentes classes sociales et c'est vrai qu'à partir de cette imitation, j'essaye souvent d'en faire des bandes dessinées. Mm-hmm. Oui, c'est vrai.
Alors, consécration, c'est, j'ai déjà fait ça.
Je vous écoute
aussi, je suis pas pendu. Alors, 40 ans, d'accord, mais on se rend compte que vous avez touché absolument à tout, mon cher Riyad, presse, livres, BD, BD jeunesse, films, scénarios, performances, affiches, publicités, films d'animation. Est-ce que cette expo, c'est le moment d'un point inforoute pour vous, celui de vous dire que dans les prochaines années, vous allez privilégier tel ou tel mode d'expression, par exemple?
Ah, je crois que j'ai déjà choisi depuis longtemps que je ferais des bandes dessinées. Ça, c'est vrai que c'est vraiment ma passion et le dessin est intimement lié à tout ce que je fais depuis toujours et c'est ce que je raconte dans l'Arabe du Futur. Alors, j'ai pu, grâce aux bandes dessinées, faire des films, mais je me serais pas battu à mort pour faire des films comme je me suis battu à mort pour faire des bandes dessinées. Ce matin, j'ai rencontré un journaliste qui m'a dit, ah, mais la bande dessinée, c'est un peu votre terre promise. Et j'ai trouvé que c'était une bonne, c'était une bonne image.
Vous pouvez me le refaire, le journaliste, là?
Ah, mais en fait, on y pense, mais en parlant de Dieu, la bande dessinée, c'est votre terre promise. Et je me suis dit, mais c'est ça.
D'où il vient. Je sais quel journal.
On pense au même.
Non, mais c'est vrai que j'ai tellement rêvé longtemps de faire des bandes dessinées que je rêvais de débarquer dans ce royaume doré où il y avait des temples merveilleux, tous ces artistes que j'aimais tant, et de pouvoir leur parler, les rencontrer, les connaître. Quand vous parlez d'Émile Bravo, j'ai lu ses bandes dessinées pendant 10 ans avant de le rencontrer. Maintenant, quand il m'envoie un mail ou qu'il m'appelle, il me dit hey, « tu vas boire un verre, à boire un coup là ?» Et que Et donc c'est vrai que c'est voilà la bande dessinée, je pense que j'en ferai jusqu'à temps que ma main tremble ou je sais pas, voilà.
Consécration, c'est... Non, qu'est-ce que je fais, moi?
Retour vers le futur. Les cinémas, vous comptez y revenir bientôt? Pas du tout. Et si on fait le bilan, quel pont vous voyez entre votre œuvre au ciné et votre œuvre dessinée?
Oh, c'est compliqué. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas vraiment de projet de cinéma. Et comme là, je viens de faire des rencontres en librairie et que j'ai des petites mamies qui viennent me voir et puis qui me disent, j'ai fini le tome 4 de l'Arabe du futur, qu'est-ce qui se passe après? Et donc, je sens que j'ai une sorte de pression et qu'il va falloir que je fasse la suite quand même. Je peux pas.
La 5 est déjà en préparation.
Bah ouais, mais faut le faire encore, quoi. Je l'ai pas. Ah bah
évidemment, faut le faire. D'ailleurs, vous comptez aller jusqu'où?
Eh bien, je connais la fin, mais je préfère la garder dans les livres. Je vais pas vous dire jusqu'à.
Combien de tomes?
Je dirais sans doute peut-être 2 encore.
Okay. Ouais. Ah pardon, ça
m'échappe. Calmez-vous, Charline. Bon, Riyad, on va continuer à papoter dans quelques instants, mais vous connaissez cette émission, vous en connaissez les rituels. C'est le moment où je vais vous demander si vous savez faire ça.
Oh la vache.
Bah oui.
Mais il est un peu plus aigu, plus ridicule.
Il a gagné en puissance et en, comment on dit, aigu? En plus aigu, quoi.
En aigu.
Voilà, en plus aigu, en aigu. Exactement. Merci, Charline. Depuis l'année dernière. De toute façon, c'est juste pour lancer les pop news.
Tremblez, les extraterrestres ont envahi la Terre. Occupé, Chicago se divise entre les collaborateurs qui ont juré allégeance à l'envahisseur et les rebelles qui les combattent dans la clandestinité depuis 10 ans. C'est le pitch du film Captive State et c'est pas cet extrait de bande-annonce qui va nous rassurer. Be ready. The Phoenix will rise. The Phoenix will rise. You gotta check this out. Damn, yo. Mais oui, mais qu'est-ce que c'est? Captive State de Rupert Wyatt avec entre autres Monuments extraterrestres ou non John Goodman, ça sortira le 10 avril au cinéma.
Annonce de la plus haute importance faite par Monsieur Orelsan sur son compte Instagram.
Je fais des voix comme ça pour qu'après il puisse m'imiter.
Ouais, c'est bien.
Écoutez bien, rien.
Je cite, jeudi minuit, je sors 11 titres inédits, j'ajoute un épilogue à La fête est finie.
Simple, basique.
Rendez-vous dans la nuit de jeudi à vendredi.
Ça ne va pas fort pour Luther, le flic de la série du même nom dont les aventures s'étaient arrêtées il y a 3 ans. Eh bien, il revient. Il est toujours incarné par Idriss, 7e merveille du monde, Elba. Et dans le teaser posté par la BBC, il est un tout petit peu en train de se faire torturer.
George, what is all this buzz? Where is he? Where is who? Where is he?
Who, Giorgio? I don't know who you're talking about.
Mais nous non plus, on ne sait pas de qui il parle.
Il est chez le dentiste.
Luther, saison 5, diffusion imminente sur BBC One et dans la foulée sur Canal+.
France Inter. Pop-pop. Antoine Decaune.
Oui,
c'est
moi.
Quel personnage?
Robocop, bien sûr.
Oh non, bah non.
Mais oui.
Mais non.
Merci, Charline. Rien de cette ouf. Ne bougez pas. On va continuer à parler de vous, avec vous, juste après un petit ACDC à l'heure du goûter. C'est Highway to Hell, bien sûr. ACDC, Highway to Hell, oui, c'était le bon titre et je dis bravo Ghislain Fontana. C'était en 1979. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Riyad Satou, venu nous parler de l'écriture dessinée, l'expo que lui consacre la bibliothèque du Centre Pompidou à Paris et qui démarre dans 48 heures. le cœur bat un petit peu plus
oui,
vite.
Oui, oui, c'est assez anxiogène hein, quand même. Oui, oui,
première expo, c'est la première expo de votre vie quand même.
Oui, oui, c'est vrai que mon dos s'est bloqué là. Je ne sais pas si c'est les 40 ans ou le stress, mais quand je pensais à l'expo, j'avais le dos qui est bloqué. Là. Il y a trop de trucs intimes là dans cette...
Quand avez-vous eu 40 ans, Riyad ?
C'était le 5 mai dernier.
Et votre dos s'est débloqué depuis quand même ?
Bah non, non, il s'est bloqué là. J'avais le dos coincé, là je visitais l'expo. Dès que je voyais un cadre un peu de travers, je me coinçais et tout. C'était...
Ah oui, c'est... vous n'êtes pas bloqué depuis le 5 mai ?
Ah non, pas depuis le 5 mai, c'est depuis qu'il y a cette expo. Donc en effet, si, ça m'inquiète quand même.
Mais non, ça va très bien se passer.
Hein, les 40 ans, ça arrive des gens très bien.
Ben oui. Et d'autant plus que votre succès n'est pas seulement hexagonal. Vous êtes publié en Allemagne, en Angleterre, au Brésil, en Espagne, en Corée, au Danemark, en Finlande, en Grèce, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Russie, aux États-Unis, aux États-Unis, en République tchèque. Bref, partout, sauf en Chine et peut-être en Syrie.
Oui, non, c'est vrai. En Chine, dans la langue arabe non plus. Mais la langue arabe, il y a des éditeurs arabes qui ont voulu faire l'arabe du futur, mais ils voulaient faire que le tome 1. Enfin, ils voulaient essayer le tome 1, voir si ça marche, et Inch'Allah, on fait la suite. En fait, non. Moi, je voulais que la langue arabe ait tous les albums, et pas prendre le risque que l'arabe n'ait que le tome 1. Donc, je le ferai traduire en arabe quand toute l'histoire sera terminée.
Bah oui, parce que c'est paradoxal d'avoir l'arabe du futur, mais qu'il ne soit pas disponible en arabe, quand même.
Bah, c'est vrai, mais alors, pour le coup, il s'est beaucoup lu au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en français et en anglais. Et je reçois beaucoup de messages de lecteurs là-bas.
Et la Chine ?
Rien n'a secoué de l'arabe du futur, mais d'une puissance assez extrême.
De l'arabe en général ou de l'arabe du futur ?
Oui, je pense, je ne sais pas, aucun intérêt, aucune demande, absolument. Alors pour le coup, c'est traduit en coréen, mais pas chinois, non.
Celui qui a déclenché votre vocation, c'est Tintin. Est-ce que Tintin est aussi a aussi un succès absolument universel ? Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qui touche absolument tout le monde, donc en dehors des Chinois, dans votre travail ? Vous l'avez identifié, ça ?
Non, je ne l'ai pas vraiment identifié. Je crois que l'histoire d'une famille... Peut-être... je sais que quand je suis allé au Brésil, j'ai rencontré un brésilo-norvégien qui m'expliquait, il me disait moi ça me rappelle un peu ma famille, le Brésil, la Norvège.
Alors c'est plus brésilien que norvégien.
Oui, c'est ça. Il était brésilien, mais et donc il avait des voyages tout le temps comme ça. Il avait du mal à être considéré comme un Norvégien par les Norvégiens et comme brésilien par les Brésiliens à cause de ses origines. Et donc je crois qu'il y a peut-être aussi cette histoire de famille, de jamais se sentir appartenir à un lieu alors que tout le monde semble être défini par ses origines, etc. Mais c'est très difficile de dire. Je sais pas du tout.
Prenez exemple sur les accents. Fait par Riyad. Il les fait bien.
Moi, les accents. Moi, j'ai pas fait l'accent brésilien.
Ah, ah non, là, tellement pas.
C'est pas
non,
tellement
ça. C'est pas brésilien. C'est formidable. C'est pas brésilien, ça.
C'est russe, non ?
Mais c'est plus letton.
Bon, à propos de Tintin, vous dites que vous êtes inspiré du Capitaine Haddock pour inventer Pascal Brutal. Est-ce que vous avez une inspiration pour un personnage à venir ?
Oui, oui, oui. Il y a un personnage à venir qui. Mais alors, je suis désolé, c'est très secret. Je ne vais pas pouvoir vous dire. Mais j'ai une autre inspiration. En effet, il y a un personnage qui ne va pas tarder à arriver.
Allez-y, on est entre nous, Riyad.
Non, non, je ne peux pas vous dire. Mais ça va être un truc. Mais ce sera après l'Arabe du futur.
Y aller, on n'est pas en direct. Je le couperai.
Non, c'est un. Mais alors, c'est vrai que Tintin. Souvent, je relis les Tintins pour me. Comme on relirait ses cours d'anglais avant d'aller aux États-Unis. Ou je me dis tout le temps, bon, attends, faut que je vais me relire Tintin parce que lui, il sait parler la bande dessinée. Donc, je me concentre, je regarde comment il fait. Si vous avez déjà lu un Tintin, n'hésitez pas à regarder la dernière case de la page de droite. Il se passe toujours un truc incroyable qui vous invite à tourner la page. Et ça, c'est un truc quand on fait des bandes dessinées. Il faut y penser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, quand on écrit une bande dessinée, c'est par double page. Et donc, c'est vrai que Hergé est au centre de tout. Alors, on peut le détester, il était relou par plein d'aspects sans aucun doute, mais c'est un immense génie, c'est un monument incroyable. Moi, je l'idolâtre.
Ne m'enfumez pas avec Hergé, c'est quoi le gros secret ?
Non, je vais faire une bande dessinée sur le... Ah, j'ai failli vous le dire. Je ne peux pas en parler, je suis désolé, je ne peux pas
en
parler.
Accent belge,
voilà. Il est bien mon accent belge.
Même si je vous promets de le couper au montage.
Non, mais je sais, bien essayé. Il faut faire monter le mystère. On ne peut pas tout dire tout le temps.
Le mystère monte, le mystère s'épaissit.
Riyad Sattou, votre ex-coloc, enfin votre camarade d'atelier, Mathieu Sapin, est passé par ce studio il y a quelques jours et il a une question à vous poser.
Alors Riyad, est-ce que tu as prévu un prochain tome de Pipite Farlouze ?
Intéressant, on voit qu'il y a
Pipite Farlouze, le petit oiseau, reviendra-t-il ?
Alors Pipite Farlouze, il faut savoir que c'est une série de bandes dessinées que j'ai fait à mes débuts, qui était un four intersidéral. Absolument personne n'a acheté cet album. J'ai racheté les stocks, ils sont actuellement dans ma cave. Et alors, je rencontre souvent des lecteurs qui, ils adorent cette bande dessinée. Et je vais la rééditer, oui, moi-même, parce que j'ai les droits. Donc j'ai l'auto-édité moi-même, comme ça. Voilà.
Pour revenir et pour finir sur cette expo, l'écriture dessinée qui démarre dans 2 jours à Beaubourg, trouvez quelques mots pour conseiller à nos auditeurs d'aller la voir plutôt que, tiens, patate, par exemple, une expo dédiée à la pomme de terre qui va démarrer aussi très prochainement.
Alors c'est amusant que vous disiez ça, parce que moi, l'expo patate m'intéresse.
Je pense
que ça peut être extrêmement intéressant.
Non mais là, vous encouragez les auditeurs à
aller voir l'expo patate et la mienne après, en effet. Ouais. De toute façon, je pense que les deux sont gratuites. Et voilà, mais c'est pourquoi, non, ne nous opposons pas entre les patates et mes dessins. C'est finalement assez proche dans les deux univers.
Bien.
Aucun rapport, mais est-ce que vous rêvez toujours d'avoir un petit rôle dans le Bureau des légendes?
Oui, j'avais dit ça la première fois. J'ai essayé là de, mais je voulais jouer un Syrien et tout, mais j'ai pas réussi.
Vous préférez jouer le bureau ou une légende?
Non, moi je préférerais jouer un Syrien, un mec qui parle arabe, qui arrive, qui fait la noisa, la niessa, la dé. Et avec la musique, là, vous savez, qui fait un nain, 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 nain. J'adore le Bureau des légendes, quel chef-d'œuvre.
Bah oui, on est bien d'accord. Bien, mon cher Riyad Satouf, il est 16h53 et c'est l'heure pour moi de descendre à la cave, chercher le dernier vinyle de cette émission. Allez, j'y vais. Qu'est-ce qui se passe ici encore? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais c'est Siri? Pourquoi il fait ce patin-là? Mais Siri, je t'ai pas appelé. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, ça y est, ok, j'y suis. Riyad Satouf, Siri, Riyad Satouf. Ok, d'accord.
Masaan na'am antiwan. Ana huna li ana Riyad bil-fi'al. Al-mustaqbal huwa al-arabiyyati wa ana arabi al-mustaqbal.
Ah, d'accord, Riyad a raison, le futur c'est l'arabe et vous êtes l'arabe du futur. Ok, je vois. Et vous savez que Riyad Satouf est très attaché à la Bretagne également.
Oui Antoine, vous avez bien raison. Qu'à cela ne tienne, je parle aussi breton. Gast, tu m'as pris pour un parigot. Madoué, je peux te jouer du biniou si tu veux.
Oui, non ça va, je vois. Et si je te dis que Riyad passe ses prochaines vacances à Amsterdam, hein, qu'est-ce qui se passe là?
Ne me chauffe pas Antoine.
Verwarm me niet Antoine, ik kan me aanpassen, ik ben een kunstmatige intelligentie.
Ah oui, évidemment, comme vous êtes une intelligence artificielle, vous vous adaptez, je vois. Bon allez, dégage, je vais mettre un morceau d'un Égyptien, tiens, Claude François, avec le Naboo Twist, en version arabe. Ça vous branche là-haut, ça? Riyad, c'est bon pour vous?
À fond!
Ok, allez, roule!
Esmi ya habibi, asli dilwati ghanghani el Naboo Twist!
El Naboo, c'est la danse que vous appelez le twist. El Naboo, el Naboo. Il y a bien longtemps que cela existe.
Le Naboot, le Naboot.
Hatte d'avoir fait chez moi, fait les mines.
Le Naboot, le Naboot.
Erciawa, la ta coulva, sa te champine. On dit que le twist est américain. Ne croyez pas ça, car il n'en est rien. Là-bas en Orient, ils ont tous twisté. Ils n'ont pas attendu Johnny Hallyday.
Le Naboot, le Naboot.
Depuis tout. C'est la danse orientale.
El Naboot, El Naboot.
C'est une question de force abdominale.
Le Naboot, le Naboot.
Hatte d'avoir fait chez moi, fait les mines.
Le Naboot, le Naboot.
Erciawa, la takulba, sa t'échappe djinn.
Le Naboot en fait, c'est un gros gourdin. Quand tu stands, on tient avec les deux mains. Posez pas de questions. Youhou! Et le Naboot!
Aïe, aïe!
Aïe, aïe!
Ya Habibi!
Ya Habibi!
Aïe, aïe!
Aïe, aïe!
Tu viens dans mon nid.
Tu viens dans mon nid.
Aïe, aïe!
Aïe, aïe!
Et toute la
François dans Pop 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 sur France Inter avec le Naboo Twist. C'était en 62 et ça n'a pas pris une ride, contrairement à Riyad Satouf. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai l'intention de faire de ma cave un musée. Qu'est-ce que vous aimeriez y laisser ici, symboliquement, un objet, une idée, ce que vous voulez?
Oh, cool. C'est pas facile quand
non,
même
c'est pas facile, non.
Comme question.
Non.
Oh, de manière complètement égocentrique et prétentieuse, je laisserai ma BD.
Votre BD?
Ouais.
D'accord, la dernière.
L'Arabe du futur. Voilà,
L'Arabe du futur. Ok, les quatre premiers tomes. Les trois suivants donc.
Oui.
J'ai bien entendu. Mmh. Et le petit secret?
Ah.
Toujours pas.
Merci
Riyad Satouf. Le tome 4 de l'Arabe du futur cartonne en librairie. Nous vous le conseillons évidemment plus que chaudement. Il est édité aux éditions Alary. Nous vous conseillons également l'exposition à la prestigieuse bibliothèque du Centre Beaubourg. Riyad Satouf, l'écriture dessinée qui commence dans deux jours et se poursuit jusqu'en mars. Et j'en profite pour rappeler que votre BD Les Cahiers d'Esther est à retrouver en dessin animé tous les soirs à 20h50 sur Canal+. Voilà, merci à l'équipe de Pop Pop Pop. Ghislain Fontana à la réalisation, à la technique Julien Dumont, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Hugo Combe et Simon Aresta, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Colin Cruel, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, le metteur en scène et scénographe Bart Abbas. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yov à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos épilation sur YouTube. Logique, hein, dans une émission avec Satouf. Abonnez-vous à notre podcast et suivez-nous sur les internets, hein, comme disent les millennials. 3615 pop 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 sur Instagram et Twitter.